Vous écoutez France Culture.
France Culture, il est midi et demi. L'heure pour vous retrouver le journal. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait promis il y a quelques jours qu'il donnerait toutes les informations en sa possession pour faire la lumière sur le meurtre à Istanbul du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Il l'a fait ce matin, il a demandé à ce que les auteurs de ce meurtre soient jugés à Istanbul. Nous y reviendrons dès le début de ce journal avec Anne Andlauer.
Dans le même temps s'ouvrait ce matin à Riyad un forum économique d'envergure, le Davos du désert, qui a enregistré ces derniers jours des désistements en cascade. Aucun dirigeant étranger n'y est présent. Quelques chefs de grosses entreprises se sont désistés aussi, mais d'autres, comme le patron Total pour la France, ont choisi de s'y rendre.
Et ce sera l'occasion de revenir sur les liens économiques et stratégiques qui lient la France et l'Arabie Saoudite. Nous le ferons avec Hakim Kasmi. À Strasbourg, grosse journée pour Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie va tenter de convaincre ses partenaires qu'il faut taxer les géants de l'Internet. Il a des partisans, mais aussi des partenaires plus réticents. L'Allemagne, par exemple.
En France, les députés s'attellent tout à l'heure au budget de la sécurité sociale, excédentaire pour la première fois dans ce projet depuis des années.
Et puis une étude épidémiologique d'envergure publiée hier et dirigée par des chercheurs français de l'INRA et de l'INSERM pointe pour la première fois un lien entre la consommation d'aliments bio et une moindre fréquence de certains cancers. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia.
L'art serait aujourd'hui attaqué de toutes parts au nom des bonnes mœurs, au nom de la protection de l'enfance, de la lutte aussi contre le racisme. On demande de retirer des livres du marché, de décrocher des tableaux. Alors faut-il interdire d'interdire ? Nouvelle morale, nouvelle censure, on en parle avec l'avocat Emmanuel Pierrat, invité de la grande table des idées aujourd'hui à partir de 12h55.
C'est donc le jour des révélations. Le président turc l'avait annoncé il y a quelques jours. Il allait dire tout ce qu'il sait sur la mort dans son pays du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul. Une déclaration ce matin devant les membres de son parti au Parlement turc. La première déclaration depuis que Riyad a officiellement reconnu que Khashoggi avait bien été tué. Une bagarre qui aurait mal tourné, se justifie l'Arabie Saoudite, dont les autorités, réunies en ce moment pour le Forum économique de Riyad, commencent, du bout des lèvres, à faire amende honorable. « Ce sont des jours difficiles, nous traversons une crise », a ainsi déclaré ce matin le ministre saoudien du pétrole. En attendant, Recep Tayyip Erdogan a donc révélé ce qu'il disait savoir. Il exige de savoir qui a donné les ordres aux tueurs et il a réclamé que les suspects soient jugés à Istanbul. Anne Andlauer, vous êtes la correspondante de France Culture en Turquie.
Pendant une vingtaine de minutes, en reprenant méthodiquement toute la chronologie des faits, le président turc a fait la démonstration que la mort de Jamal Khashoggi était un crime prémédité, planifié plusieurs jours avant. Un crime sauvage, un crime politique, a-t-il même dit. Recep Tayyip Erdogan a longuement décrit les allées et venues entre Riyad et Istanbul, des 15 Saoudiens accusés d'avoir assassiné le journaliste, parmi lesquels, a-t-il confirmé, figuraient des agents de sécurité et du renseignement saoudien, et même un spécialiste de médecine légale. Recep Tayyip Erdogan a ensuite estimé que les autorités saoudiennes avaient fait un pas important en reconnaissant la mort de Jamal Khashoggi, mais il les a appelés à répondre à toutes les questions qui restaient en suspens. Parmi elles, de qui ces 15 Saoudiens ont-ils reçu l'ordre de tuer Jamal Khashoggi ? Ou encore, pourquoi, si sa mort est accidentelle, n'a-t-on pas encore retrouvé le corps de Jamal Khashoggi ? En clair, le président turc n'est pas allé jusqu'à pointer un doigt accusateur vers le régime saoudien, mais il a adressé à Riyad toutes les questions embarrassantes qui suffisent à mettre en doute de manière implacable la version officielle des faits. Une façon de continuer à temporiser et de dire à Riyad, la balle est dans votre camp.
Anne Andlauer, tout cela n'arrange évidemment pas les affaires de Riyad où s'est ouvert ce matin un forum économique déserté par de nombreux chefs d'État étrangers, le forum F2I pour Future Investment Initiative, appelé aussi Davos du désert. Il a subi des désistements en cascade, chef d'État d'abord, chef d'entreprise ensuite. L'objectif de ce forum, c'était de promouvoir l'Arabie Saoudite comme nouvel Eldorado du commerce international, du tourisme, du divertissement ou des nouvelles technologies. Si les dirigeants d'EDF en France ou de Siemens en Allemagne ne feront pas le déplacement, ça n'est pas le cas en revanche du PDG de Total, Patrick Pouyanné, qui explique en substance que la politique de la chaise vide n'arrangera pas forcément la situation des droits de l'homme. Une vision pragmatique partagée par de nombreux autres chefs d'entreprise français, même s'ils le disent moins fort. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Anne-Laure Chouin.
C'est que la France a des liens économiques assez stratégiques avec Riyad.
Oui, le rapprochement et le réchauffement diplomatique entre la France et l'Arabie Saoudite a été impulsé par François Hollande lorsqu'il était président de la République. Il s'est concrétisé avec la signature d'un partenariat stratégique en 2015, une stratégie payante sur le plan économique pour la France, à commencer par Total, qui va exploiter un site pétrochimique avec Saudi Aramco à Jubail, dans l'est du pays. Montant du contrat qui a été annoncé il y a tout juste un mois, 5 milliards de dollars. D'où la présence très remarquée, sans doute, de Patrick Pouyanné, le PDG de Total, à ce Davos du désert. Autre secteur, les transports. Alstom va exploiter et se charger de la maintenance de 4 des 6 futures lignes de métro de Riyad, qui est l'un des plus gros chantiers ferroviaires actuellement dans le monde. L'RATP, qui exploite déjà des bus, elle aussi a décroché en septembre un contrat pour l'exploitation de 2 lignes de métro, montant du contrat 2 milliards d'euros. La France est aussi très présente dans le traitement de l'eau et la gestion des déchets, avec Veolia, Suez, mais aussi SOR, qui symboliquement traite l'eau de Zemzem, la fameuse fontaine très prisée par les pèlerins de la Mecque. Mais ce sont surtout les contrats militaires qui sont embarrassants pour la France et Paris, avec plus d'1,5 milliard de dollars de livraison d'armes l'année dernière. La France est devenue le deuxième client dans le secteur militaire de l'Arabie Saoudite. Le royaume qui n'est pas juste un bon client, mais également un bailleur de fonds et un intermédiaire très important pour la France, car c'est lui qui a financé une partie du contrat Rafale avec l'Égypte, qui fut, on s'en souvient, le premier contrat à l'export pour l'avion de Dassault, et qui a également financé une partie du TGV marocain pour se faire pardonner de ne pas avoir choisi le Rafale français pour l'armée de l'air saoudienne.
Merci beaucoup Hakim Kasmi. 14 millions de personnes sont en situation de pré-famine au Yémen, estimation du secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, Mark Lockbrook. La situation humanitaire au Yémen est la pire au monde, dit-il dans une note remise au Conseil de sécurité. 75% de la population, soit 22 millions de personnes, ont besoin d'aide et de protection. 8,5 millions de Yéménites sont en situation d'insécurité alimentaire grave et dépendent d'un apport en nourriture urgent. Une crise alimentaire directement liée à la guerre du Yémen, dans lequel, on le rappelle, l'Arabie Saoudite est partie prenante. La France championne de la taxation des GAFA, c'est en tout cas l'image que souhaite donner Bruno Le Maire, qui repart au combat sur ce thème devant le Parlement européen réuni aujourd'hui à Strasbourg. Il faut taxer mieux et plus les géants de l'Internet, notamment sur leurs recettes publicitaires, estime le ministre français de l'économie. Il est appuyé par de nombreux partenaires, mais en matière fiscale, c'est l'unanimité qui est toujours requise. Or, il y a des réticences, l'Allemagne notamment. Les précisions à Strasbourg, Dania Vogel.
Les entreprises sont imposées à hauteur de 23% en moyenne en Europe. Pour les géants du net, c'est moins de 9%. Trouvez-vous cela juste? C'est sous le hashtag WePayYouPay que Bruno Le Maire est venu chercher l'appui des eurodéputés pour faire adopter avant la fin de l'année la proposition de la Commission européenne pour une taxation plus équitable de l'économie numérique. Et il se dit optimiste.
Déjà, il y a beaucoup de pays qui ont bougé, je m'en réjouis. Et je crois que nous sommes tout près d'un accord. Nous étions partis à 5. 19 États nous ont rejoints, donc je crois qu'il y a un vaste mouvement pour avancer dans cette direction-là. Mais comme toujours, en Europe, le plus difficile, c'est la décision. Si nous voulons contenir les extrêmes, il faut décider, et décider dans le sens des intérêts des Européens.
Mais reste à convaincre l'Irlande, les Suédois, les Danois et surtout l'Allemagne. Au Parlement européen, la démarche de Bruno Le Maire est considérée comme bienvenue, mais laisse certains sceptiques, comme le coprésident du groupe des Verts, le Belge Philippe Lamberts.
Je pense que Bruno Le Maire devrait apprendre les institutions européennes et il devrait savoir qu'en matière fiscale, seuls sont compétents les États membres. Et ils le sont à l'unanimité. Vous savez, nous les députés européens, on est plutôt allant sur la question de l'harmonisation fiscale de l'impôt des sociétés, mais nous n'avons pas voix au chapitre. Je me demande comment le gouvernement d'Emmanuel Macron réagirait si, sur un autre dossier, l'Allemagne faisait du lobbying auprès de députés européens français pour qu'à leur tour, ils relaient la position allemande à Paris. Je ne pense pas que ça serait vraiment très bien reçu et que ce soit de nature à vaincre les réticences ou la résistance, pour parler plus clairement, allemande. Donc je ne pense pas que diplomatiquement ce soit très bien pensé.
Et c'est précisément pour faire pression sur l'Allemagne que Bruno Le Maire sera entouré d'eurodéputés poids lourds de la CDU et de plusieurs commissaires européens pour lancer son appel à la mobilisation cet après-midi. Un appel adressé également aux citoyens. Il participera d'ailleurs avec Margrethe Vestager, la commissaire à la concurrence, à une consultation citoyenne à l'hôtel de ville de Strasbourg.
Ania Vogel, la caravane continue au Mexique. La caravane, c'est cet immense cortège de migrants honduriens qui se dirigent vers le nord, vers la frontière américaine, qu'ils espèrent passer pour trouver du travail et plus largement de meilleures conditions de vie. Hier, en représailles, Donald Trump a annoncé supprimer les aides à trois pays d'Amérique centrale, Honduras, Salvador et Guatemala. Ils n'ont, selon le président américain, pas été capables d'empêcher leur population d'émigrer. Cette caravane a fourni hier au président américain l'occasion rêvée de broder sur la thématique migratoire et de remettre sur la scène médiatique son mur à la frontière mexicaine. Il était hier soir à Houston, au Texas, pour soutenir son ancien rival à la présidentielle, Ted Cruz, à deux semaines des élections de mi-mandat. À New York, Loïc Loury.
President Donald J. Trump.
Une entrée triomphale devant 18 000 personnes. Quelques minutes sur la bonne santé économique du pays et Donald Trump entre dans le vif du sujet.
On veut accueillir du monde. Notre taux de chômage est à 3,7%. C'est du jamais vu depuis plus de 50 ans. Mais ces gens doivent venir légalement.
L'occasion parfaite de défendre son mur à la frontière mexicaine.
On a commencé ce mur. 1,6 milliard de dollars, puis un autre et encore un autre. Je veux que ce soit fait rapidement. Et vous êtes au courant de ce qui se passe? Un énorme groupe de personnes, ils appellent ça une caravane.
Et d'accabler les démocrates accusés sans preuve de distribuer de l'argent pour soutenir la caravane.
Vous savez comment cette caravane a commencé? Tout le monde le sait. Je pense que les démocrates sont impliqués. Et maintenant, ils se disent qu'ils ont fait une grosse erreur parce que tout le monde voit à quel point c'est une catastrophe.
À deux semaines des élections de mi-mandat, l'affaire est devenue un enjeu majeur de la campagne. Donald Trump s'empare de l'un de ses thèmes favoris, mais ne s'encombre pas avec les faits. Hier matin, il affirmait ainsi que le cortège était constitué de criminels et d'inconnus venus du Moyen-Orient.
Un reportage de Loïc Loury. 52 personnes sont mortes en détention préventive à Madagascar l'année dernière à cause d'un système judiciaire paralysé. C'est l'ONG, Amnesty International qui le pointe dans un rapport. Selon elle, 55% de la population carcérale de Madagascar, soit 11 000 personnes, attendaient toujours d'être jugées le mois dernier, la plupart pour des crimes mineurs. Leurs conditions d'incarcération sont misérables. Le président malgache, par intérim, a reconnu cette situation. Il estime que les juges n'ont pas toujours le choix et préfèrent parfois mettre en prison plutôt que de laisser des prévenus souffrir la vindicte populaire. Midi 42 sur France Culture, la suite du journal. En France, les députés ont achevé cette nuit leur débat sur le volet recettes du budget 2019. Des recettes qui, à l'issue des discussions, seraient en augmentation du fait de plusieurs amendements, notamment sur la taxation des plus-values des entreprises. Dans quelques heures, les députés examineront le projet de budget de la Sécurité sociale. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour.
Alors, deux faits saillants dans ce PLFSS. Une sécu qui redevient excédentaire et des mesures qui ainsi à penser que ces excédents pourraient bien, dans le futur, servir le budget de l'État.
Oui, les 700 millions d'euros d'excédents attendus en 2019 s'expliquent par des raisons conjoncturelles. Les créations d'emplois entraînent une augmentation des cotisations sociales, mais aussi par une plus grande maîtrise des dépenses de santé, 3,8 milliards d'économies, et des efforts des salariés et retraités, en particulier le quasi-gel des prestations sociales et des pensions retraites. En 2019 et 2020, elles seront désindexées, c'est-à-dire que leur hausse sera de 0,3%, alors que celle des prix devrait atteindre les 1,3%. C'est 1,8 milliard d'euros que la Sécurité sociale n'aura pas à dépenser. De quoi nourrir le mécontentement des retraités dont une bonne partie subit déjà la hausse de la CSG sans compensation. À noter qu'en commission, les députés En Marche ont fait adopter, contre l'avis du gouvernement, un amendement pour plus de progressivité dans les taux de CSG des retraités afin d'épargner les plus modestes. L'excédent de ce budget aurait même pu être plus grand, mais l'exécutif a choisi de supprimer certaines cotisations sociales, comme celles sur les heures supplémentaires. Cela représentera 2 milliards d'euros en moins en année pleine. Or, ce projet de loi instaure un changement de taille dans les relations financières entre l'État et la Sécurité sociale. À partir de 2019, les exonérations de cotisations décidées par l'exécutif ne seront plus systématiquement compensées par l'État. Alors la question que tout cela pose, c'est de quelle manière, dans ce contexte, seront assurées les missions de la Sécurité sociale. L'exécutif met en avant le volet social, justement, de son budget, les dépenses liées au plan santé et pauvreté, la mise en place progressive du reste à charge zéro pour les prothèses dentaires, auditive, les lunettes. Mais pour certains économistes, ce projet de loi, en faisant peser sur la sécurité sociale des décisions de l'exécutif, contient une forme de menace sur la fonction de solidarité jouée par les dépenses de sécurité sociale. En tout cas, ce qu'il faudra lire dans ces discussions budgétaires, c'est bien un débat politique autour de l'État-providence du XXIe siècle voulu par Emmanuel Macron.
Merci beaucoup Catherine Pétillon. C'est un dossier industriel, celui-là qui échauffe les esprits, au point que le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a accusé la semaine dernière l'État français de préparer l'assassinat de l'aciérie Ascoval à Saint-Saulve, près de Valenciennes. Cette aciérie dont l'État est actionnaire via le groupe Vallourec et qui est placée en redressement judiciaire. L'État ne veut pas prendre sa part, c'est ce qu'estiment en tout cas les élus locaux et les 281 salariés de l'usine. Une réunion de crise a lieu aujourd'hui. Les garanties demandées par le seul repreneur potentiel, Altifor, ont été rejetées par Vallourec, ce qui met donc la survie de l'usine en danger. Bruno Kopczynski est porte-parole de l'intersyndicale d'Ascoval. Il est interrogé par Maxime Deps.
C'est de la colère, de la haine. Depuis le début, Vallourec et certains personnages du ministère ont joué contre le dossier. À chaque fois qu'on avance un argument, ils l'ont démonté. Ils ont sorti un rapport de on ne sait où, puisqu'ils ont contacté personne, qui démonte le projet. Nous, on a nommé des experts indépendants qui disent que le projet est viable. C'est notre métier, on sait de quoi on est capable, on sait que le projet tenait la route. Nous, on a été clairs. Depuis le début, on a été professionnels, dignes. On a joué notre rôle. On les a toujours prévenus que si ça tournait mal, on irait les chercher, ils nous rendraient des comptes. On a commencé ce matin. La première décision, c'est que dorénavant, Vallourec ne pourra plus expédier aucun de ses produits vers ses clients. Les voies ferrées sont barrées, les postes de garde sont verrouillés sur le site de Saint-Saulve. On va s'attaquer au site d'Aulnoy, au site de Deville. Vallourec, on va l'étouffer. Si on meurt, Vallourec mourra.
1800 personnes évacuées ce matin du campement de Grande-Synthe dans le Nord. La grande majorité de ces personnes réfugiées vivaient au milieu des lacs et des petits bois. Ils sont des Kurdes irakiens. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est attendu sur place en fin d'après-midi. Les personnes évacuées seront prises en charge dans des structures d'hébergement, selon la préfecture du Nord, qui explique que les réseaux de passeurs sont très actifs dans ce campement et que l'opération vise à enrayer le trafic d'êtres humains. Les précisions sur place de Mathieu Darrier de France Bleu Nord.
Par cette opération qui mobilise plus de 700 policiers, l'État entend réaffirmer que le passage vers l'Angleterre n'est pas une simple formalité. Mais visiblement, le message ne passe pas, car cette évacuation est la sixième en quelques mois. Lors de la dernière, 500 familles avec enfants avaient été mises à l'abri, mais les hommes seuls avaient pris le large avant de revenir dès le lendemain, et s'y sont ajoutées de nombreuses arrivées depuis la Belgique ou l'Allemagne qui ont refusé les demandes d'asile de ces Kurdes. Alors que l'État se focalise sur Calais, Grande-Synthe connaît aujourd'hui une situation bien plus inquiétante du point de vue humanitaire. Avec plus de 1800 personnes, les migrants sont clairement beaucoup plus nombreux dans le Dunkerquois qu'à Calais. Et ici, l'État n'apporte ni eau, ni douche, ni toilette, ni nourriture, ce que la justice lui avait imposé à Calais. Le maire écologiste de Grande-Synthe menace donc de rouvrir le camp de réfugiés de la Linière, qui avait en partie brûlé au printemps 2017.
Mathieu Darrier, c'est une première étude d'ampleur sur le sujet et sa démonstration est inédite, où il apparaît que manger bio réduit de façon significative les risques de cancer. On s'en doutait, mais rien n'avait été prouvé par des études scientifiques d'envergure. Et pour l'instant d'ailleurs, les agences réglementaires ne considèrent pas que les résidus de pesticides dans l'alimentation soient un danger pour la santé. Mais cette étude épidémiologique française, publiée hier dans la revue JAMA Internal Medicine, est la première à pointer donc un risque de cancer moins élevé pour les gros consommateurs d'aliments biologiques. Bonjour Lisa Melia.
Bonjour.
Ce qui fait la force de cette étude, c'est l'ampleur de son échantillon.
70 000 volontaires des consommateurs français dont les habitudes ont été passées au peigne fin entre 2009 et 2016. Voici l'impressionnant corpus de données sur lesquels les 11 auteurs de l'étude ont pu travailler. Un échantillon réparti en plusieurs groupes. Appelons ceux dont plus de la moitié de l'alimentation est bio, le groupe A, et ceux qui n'en mangent presque jamais, le groupe B. Conclusion de l'étude, le risque de développer un cancer est plus faible de 25% dans le groupe A que dans le groupe B. Pour les cancers du sein post-ménopause, c'est même 34% de moins. Et pour les lymphomes, un type de cancer du sang, le risque est 76% moins important. Pour les chercheurs Cela s'explique le plus probablement par les résidus de pesticides synthétiques, plus nombreux dans les produits non bio que dans les produits issus de l'agriculture biologique. Ces chiffres prennent d'ailleurs en compte ce qu'on peut appeler les biais sociaux, c'est-à-dire le fait que les populations qui consomment le plus bio sont souvent plus sportives, plus attentives à leur santé, plus riches aussi. Les chercheurs ont corrigé leurs résultats en tenant compte de ces réalités, ce qui leur permet d'affirmer que la différence entre le groupe A et le groupe B tient probablement au type d'alimentation. L'autre force de cette étude, c'est que ces résultats sont cohérents avec celles sur les expositions professionnelles aux pesticides. Le lymphome est notamment l'un des cancers surreprésentés chez les agriculteurs qui travaillent avec des produits phytosanitaires. Cohérente, cette étude est surtout pertinente. Les auteurs rappellent que dans le monde, on estime à plus de 14 millions les nouveaux cas de cancer chaque année.
Merci Lisa Melia. Et puisqu'on parle de pesticides, sachez qu'un tribunal californien a rejeté hier l'appel de Monsanto qui demandait un nouveau procès. Monsanto, qui on le rappelle, avait été condamné à verser 289 millions de dollars à un jardinier empoisonné par le Roundup, un herbicide à base de glyphosate. Appel rejeté donc, mais la Cour supérieure de Californie de San Francisco aurait décidé de réduire les dommages et intérêts à 39 millions de dollars. Si le jardinier est d'accord, le titre Bayer, qui détient Monsanto désormais, a plongé en bourse de 8,40% ce matin. Son premier procès avait été un fiasco, il avait fini par être reporté. Revoilà Georges Tron devant les juges depuis ce matin à Bobigny. L'ex-secrétaire d'État doit répondre aux assises des accusations de viol en réunion de deux anciennes employées de sa mairie de Draveil. Accusation qui lui avait coûté son poste à la fonction publique, c'était en mai 2011. Il comparaît donc aux côtés de son ex-adjointe à la culture, Brigitte Gruel, poursuivie pour les mêmes faits. Les deux accusés nient en bloc. Bonjour Florence Turme, vous êtes au tribunal de Bobigny. Ce matin donc, le procès repart à zéro.
Oui, et les rangs du public sont aujourd'hui plus clairsemés que lors du premier procès qui avait débuté quelques semaines après l'onde de choc provoquée par l'affaire Weinstein et le mouvement Balance ton porc. Le président de la cour d'assises a d'ailleurs formellement interdit aux non-professionnels l'usage du téléphone portable durant l'audience. En décembre dernier, les réseaux sociaux, en particulier Twitter, s'étaient déchaînés sur la manière dont son prédécesseur avait mené l'interrogatoire des plaignantes. Régis de Jorna avait d'ailleurs fini par jeter l'éponge face à l'offensive virulente de la défense et à cet ultime coup porté par Éric Dupond-Moretti, l'avocat révélant une confidence faite en privé. Le magistrat aurait préféré que l'audience soit présidée par une femme. Aujourd'hui, c'est donc un nouveau magistrat, mais un homme toujours, Philippe Couard, qui reprend le procès avec calme et autorité, si l'on en juge par ses trois premières heures d'audience, même s'il est encore trop tôt pour évaluer la sérénité des débats qui avaient cruellement fait défaut lors du premier procès. Cette fois, la cour aura 4 semaines au lieu de 9 jours pour entendre les 55 témoins et les 8 experts cités. Les autres protagonistes restent les mêmes, à l'exception d'un avocat de partie civile. L'avocat général Frédéric Bernardo a également repris sa place, lui qui avait assumé une position différente d'un parquet opposé au renvoi de Georges Tron et Brigitte Gruel devant la cour d'assises. Et Georges Tron a fait son entrée dans la salle, manteau noir, costume sombre et chemise blanche, avec un temps d'hésitation pour répondre à la première question du président sur sa profession. Élu, déclare finalement le maire de Draveil, dont l'examen de personnalité débutera cet après-midi.
Merci Florence Turme, avec les moyens techniques de Jean-Marie Porcher. C'est un énième constat de l'OCDE, cette fois, qui déplore, encore une fois, l'incapacité du système scolaire français à corriger les inégalités sociales en son sein. L'Organisation de coopération et de développement économique publie donc aujourd'hui un rapport sur l'équité dans l'éducation. La France y apparaît comme l'un des pays occidentaux où le poids du milieu social sur les performances scolaires est le plus lourd. Alexis Morel.
Un chiffre de la dernière enquête internationale PISA résume la situation. En France, il y a 118 points d'écart entre le niveau en sciences des élèves venant de familles favorisées et le niveau des élèves défavorisés. C'est l'un des écarts les plus élevés de tous les pays occidentaux. Selon les experts de l'OCDE, cette différence s'explique à hauteur de 20% par le milieu social. C'est beaucoup. La situation s'est très légèrement améliorée depuis 10 ans, mais bien moins fortement qu'en Allemagne et aux États-Unis qui ont, eux, nettement réduit les inégalités scolaires. L'école française a ainsi du mal à atténuer l'influence familiale. Les jeunes dont les parents sont diplômés de l'enseignement supérieur ont 14 fois plus de chances que les autres d'être également diplômés du supérieur. Enfin, autre travers de notre système éducatif, la concentration des élèves défavorisés dans les mêmes établissements. Le constat de l'OCDE rejoint en partie celui de la Cour des comptes qui a pointé la semaine dernière les faibles résultats de l'éducation prioritaire.
Alexis Morel, le temps de ce mardi après-midi pour finir. Le gris de ce matin a laissé place au soleil presque partout. Dans le sud-est, Mistral et Tramontane vont souffler en rafale jusqu'à 80 km/h. Les températures comptaient au plus chaud de 14 à 19 degrés sur la moitié nord, de 16 à 22 degrés au sud, avec des pointes à 24 degrés dans le sud-est. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue. Vous retrouverez Stanislas Vazac à 18h.